On raconte l'histoire d'un homme qui était cuisinier au 1er siècle après Jésus-Christ. Un jour, son maître vient lui dire « Écoute, prépare-moi le meilleur plat qui puisse exister. » Ce philosophe cuisinier prépara un plat, avec de la langue. Un autre jour, son maître vint le voir et lui dit « Cuisinier, j'aimerais que tu me prépares le plus mauvais plat que tu aies jamais préparé de ta vie. » Alors le cuisinier réfléchit et lui servit un plat avec de la langue. Notre langue peut bénir ou maudire, juger ou pardonner, encourager ou tuer. Notre réputation se fait en grande partie sur l'usage de notre langue. Des dictateurs ont réussi à entraîner des pays tout entiers. Il y en a encore un il y a une soixantaine d'années, dans le malheur, par sa langue. Alors que des hommes remplis de sagesse ont été des artisans de paix. L'Épître aux Éphésiens, s'il vous plaît. Chapitre 4, verset 29, nous parle de la langue. Ce petit instrument qu'on a tellement de mal à maîtriser. Qu'il ne sorte, chapitre 4, verset 29, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, c'est parole vivante hein, pour ceux qui seraient dérangés par la traduction, s'il en est besoin, une bonne parole qui soit constructive et communique une grâce à ceux qui l'entendent. Et regardez bien le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour un jour de rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. Faites-vous grâce comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Ouh. Voilà un texte qu'il est bon, qu'il fait bien à réfléchir dans ces temps actuels. J'ai trouvé cette phrase qui était très très jolie. Ma fille n'est plus là, donc elle ne va pas écouter, mais je la ferai écouter. Le cœur de l'homme est une usine de production. Et la langue en est le directeur commercial. Le cœur de l'homme est une usine de production et la langue en est le directeur commercial. Je dis ça parce qu'elle veut être directrice commerciale, donc j'espère que ça sera des bons produits. Imaginez que le directeur commercial d'une entreprise soit un mauvais gestionnaire ou un piètre vendeur. L'usine va faire faillite. On va le voir ce matin, la bouche est l'expression de ce qu'il y a dans notre cœur. Qu'est-ce qu'elle exprime ? Matthieu chapitre 12, verset 33 dit « Ou bien faites que l'arbre soit bon ou que son fruit soit beau, ou bien faites que l'arbre soit malade et que son fruit soit pourri. Car on connaît l'arbre à son fruit. » Et il dit ceci, il dit « Vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, mauvais comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Mes amis, quand on est chrétien, il y a un instrument qui a besoin d'être rectifié. Et cet instrument, il ne peut être rectifié que si un autre organe vital a été changé. C'est le cœur. Pas celui-là. mais notre être tout entier. Qu'il ne sorte, Éphésiens 4, de votre bouche aucune mauvaise parole. Et là, certaines traductions, vous l'avez vu, je l'ai lu, parole de vie, parole vivante, on traduit qu'il ne sorte rien de pourri de votre vie. Rien de pourri. Ça veut dire quelque part, notre vie nouvelle ne peut pas exprimer quelque chose de pourri. Ou alors, c'est dire que Dieu a mis en l'intérieur de nous des choses négatives. On connaît l'arbre à son fruit. Tout ce qui peut démoraliser, casser, offusquer. Tout ce qui peut démolir. Vous savez que l'arme la plus terrible de destruction massive, comme les mines antipersonnelles, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'une mine antipersonnelle, c'est des mines qu'on ne voit pas, mais qui explosent. Et souvent, dans la majorité de nos pays, des pays qui les utilisent, on envoie les enfants pour déminer le terrain, pour que les soldats passent après. C'est-à-dire qu'on sacrifie des vies, mais elles ne se voient pas. Et notre bouche déverse quelque chose qui n'est pas conforme à ce que Dieu dit. La langue est un des organes que Dieu a créé et a mis dans notre corps. Il sait, Dieu, lui, que ça va être compliqué. Qu'il va falloir la maîtriser. Tourner 7 fois sa langue dans sa bouche. Aller pour notre bénéfice. On peut y dépister le goût. On peut parler, développer notre langage. Mais ce qui est intéressant, c'est que, comme beaucoup de parties de notre anatomie, nous n'y prêtons pas attention. À moins que, les aliments que nous mettons dans notre bouche ne soient trop chauds. À moins que on se morde malencontreusement la langue. Là, on se dit, ah oui, c'est vrai. J'ai un instrument. Et je me dis qu'à chaque fois, si Dieu avait bien voulu dans sa grâce, à chaque fois qu'on dit des bêtises ou à chaque fois qu'on dit des méchancetés, s'il avait voulu que notre langue brûle, ça aurait été bien. Le livre des Proverbes. Au chapitre 18, dans les versets 20 et 21. Je vais lire pas mal de versets, parce que j'aimerais qu'on ait bien conscience que quand Dieu nous donne cette nouvelle vie, il y a quelque chose qui veut qu'on travaille. Et s'il veut qu'on travaille notre relation avec lui, s'il veut qu'on travaille notre relation avec les frères et sœurs, il veut aussi qu'on travaille avec notre bouche. Proverbe 18, versets 20 à 21, dans la version seconde. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. Et regardez bien la fin du verset. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Waouh ! Quiconque l'aime en mangera les fruits. Waouh ! On va devenir muet en partant, hein. Regardez bien, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Je ne crois pas qu'on a d'idée de ce qu'on fait avec notre langue. De comment on peut détruire. De comment on peut construire. De comment on peut pardonner. De comment on peut haïr et faire du mal. J'aimerais qu'on aille dans le livre de Jérémie, quelques instants. On se demande des fois pourquoi il y a le livre de Jérémie et les lamentations de Jérémie. N'est-ce pas ? On se dit, mais pourquoi il se lamentait, Jérémie ? Et j'aimerais que vous lisiez avec moi, chapitre 18, verset 18. Tout le monde y est dans l'Ancien Testament. Après le prophète Ésaïe, il y a le prophète Jérémie. après psaume proverbe. Vous y êtes? Jérémie, chapitre 18, verset 18. 18, 18. C'est les pompiers, hein, c'est ça le 18? Vous y êtes? Ils ont dit, venez, complotons contre Jérémie, car sa loi ne périra pas faute de sacrificateur, ni le conseil faute de sage, ni la parole faute de prophète. Venez donc, regardez bien, tuons-le avec la langue. Venez donc, tuons-le avec la langue. Ne prenons pas garde à tous ces discours. Tuons-le avec la langue. Une œuvre de destruction massive. Qui sommes-nous? La Bible dit que la langue est un instrument de mort. Mais elle devrait être la source de la vie. Elle devrait être la source, ce qui permet de déverser ce que Dieu a mis à l'intérieur. Regardez, je ne sais pas si vous voyez l'image, mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand l'eau jaillit, elle remplit des lacs. Elle apporte, elle désaltère, elle apporte la fraîcheur. Elle peut avoir un débit très gros. Elle peut être retenue pour éviter d'envahir les grandes villes ou les petites villes. Mais elle peut laisser aussi un paysage désertique, brûlé par le feu. Notre langue exprime ce qu'il y a dans mon cœur. S'il y a des luttes, s'il y a des craintes, s'il y a des amertumes, elle va les exprimer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Que faisons-nous avec notre langue? Oh, c'est encore foutu, Dieu n'a encore rien fait. Bah, c'est encore pour moi cette catastrophe. Oh, mais il est nul, lui. Oh, mais les enfants, mais qu'est-ce qui me casse les pieds? Qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour les avoir? C'est le fruit de notre cœur? Les enfants sont une bénédiction? Est-ce que Dieu est infidèle? Est-ce que Dieu ne répond pas, même après 4 mois de stage? C'est intéressant combien on pourrait gagner de temps. Éviter que notre bouche soit le déversoir des choses que Dieu ne veut pas entendre et que les autres ne devraient pas entendre. Nous confessons des échecs par avance qui deviennent des victoires. Nous lançons des paroles qui ne sont pas inspirées. Alors je vais vous lire, parce que vous n'aurez pas le temps de suivre, mais prenez au moins note des références. J'ai pris quelques textes pour nous rappeler que Dieu a prévu expressément pour notre bouche quelque chose. Le prophète Ésaïe, chapitre 50, verset 4. Le Seigneur, l'Éternel, m'a donné une langue exercée pour que je sache soutenir par sa parole celui qui est abattu. Il éveille, chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. Une langue exercée pour soutenir. Dans le Nouveau Testament, chapitre 13 du livre des Hébreux, verset 15, « Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. » On revient au Proverbe, chapitre 12, verset 18. « Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Mais la langue des sages apporte la guérison. » Psaume 34, qu'on connaît, verset 13. « Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. » Le prophète Osée, chapitre 14, verset 2. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités, reçois-nous favorablement, nous t'offrirons au lieu des taureaux l'hommage de nos lèvres. Colossiens chapitre 4, versets 5 et 6. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, rachetez le temps, que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Le livre des Proverbes, chapitre 10, verset 11. La bouche du juste est une source de vie, mais la violence couvre la bouche des méchants. La langue douce est un arbre de vie, dit le proverbe, mais la langue perverse brise l'âme. Livre des Proverbes, chapitre 16, verset 24. Les paroles agréables sont un rayon de miel, douce pour l'âme et salutaire pour le corps. Encore, chapitre 13 du livre des Proverbes, ce qui nous donne la sagesse, hein, celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Proverbe 15, une réponse douce détourne la fureur, mais la parole blessante excite la colère. Psaume 141, Éternel, garde ma bouche, on l'a lu en introduction tout à l'heure, veille sur la porte de mes lèvres. Jacques chapitre 3. Pour terminer, notre langue par elle, notre bouche par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle nous bénissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Et ça, c'est un petit aperçu de ce que la Bible dit sur notre bouche et sur notre langue. Elle est l'expression de notre cœur. Nos paroles sont le reflet de ce que notre cœur vit. Nos inquiétudes, nos appréhensions, nos rancœurs. Luc chapitre 6, verset 45. L'homme bon tire de bonnes choses, de bons trésors de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On a besoin de remplir notre cœur, mes amis. On a besoin d'y mettre des choses bonnes, d'aller dans 1 Corinthiens 13, de parler de l'amour. D'aller dans Éphésiens 2, Éphésiens 5, le fruit de l'esprit. Et de dire, Seigneur, c'est ça que je veux à l'intérieur. C'est pas ce que le monde vit. C'est pas la télévision, c'est pas Internet. Il y a des bonnes choses, mais il y en a tellement de mauvaises qu'on retient. Vous avez jamais vu ? Combien c'est facile de retenir une image, une phrase, quelque chose que vous ne voulez pas. Vous savez, des fois le matin, en sortant, on entend une musique, n'importe laquelle. Et cette musique vous accompagne toute la journée. Et elle revient, et elle revient. Et à un moment, vous dites, bon, c'est bien, je vais passer à autre chose, mais c'est là. Nous avons besoin d'être abreuvés, parce que nous disons, nous sommes les enfants de Dieu. Nous disons que nous pratiquons la parole. Mais qu'est-ce qui sort de ma bouche ? N'attendons pas d'avoir mal ou de causer le mal par notre langue. La semaine prochaine, on parlera de maîtriser notre langue. Comment le faire ? Même si cela veut dire se mordre la langue pour ne pas parler. Un jour, un orateur discourut sur le pouvoir des mots. Et un des participants a dit « Oui, mais enfin, ça, c'est que des mots. C'est pas parce que je dirais bonheur, bonheur, que le bonheur va arriver. » Alors l'orateur a dit « Mais espèce d'idiot, c'est pas comme ça qu'on parle. » Et le monsieur, très surpris, dit « Mais vous êtes un abruti !» Et tout de suite, l'orateur dit « Pardon, excusez-moi. Je suis désolé. » Vous avez votre réponse ? Les mauvais mots. La mauvaise réponse entraîne quoi ? L'amertume, les mauvais mots, et on rentre dans le jeu. Mes amis, on a du travail à faire. ensemble. Je dis bien nous. Nous avons du travail ensemble pour remplir notre cœur. Le remplir avec cette eau où la Bible dit c'est l'eau de la vie, pas l'eau de la mort. C'est le diable qui est de la mort. Jésus, c'est parole de vie. Parole de vie. C'est pas que juste le groupe qui a un coin ou à Québec qui a le droit de porter ce titre. Parole de vie. Comme Paul le souligne, si quelques bonnes paroles servent à l'édification, communiquent la grâce, alors l'inverse est aussi vrai. De mauvaises paroles suscitent la colère, la tristesse, l'amertume. Et vous le savez, n'est-ce pas? Et nous le vivons ensemble. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi t'as réagi comme ça? Aujourd'hui, sur notre route, nous croiserons des gens. Des frères, des sœurs. Voilà, les frères et les sœurs se sont croisés cette semaine. Et Isabelle disait, les gens nous entendaient rire. Imaginez s'ils avaient entendu qu'elle se mettait sur la tête. Qu'elle se dise des gros mots à la figure, après dire, venez à l'église dimanche. Vous apprendrez à ne pas le faire. Dans l'épître de Jacques, la langue est décrite comme un feu. Un feu, ça peut être utile. Ça peut nous permettre de nous réchauffer, de faire cuire nos aliments, d'éclairer notre chemin. Mais ce même feu, mal utilisé, peut également avoir des effets tellement dévastateurs. Faire brûler des vallées entières, éliminer les gens. Comment utiliser notre bouche chaque jour? Qu'est-ce que nous laissons faire à notre bouche? Est-ce qu'elles vont à l'envers de ce que l'on dit? Est-ce que nous sommes des sépulcres blanchis à l'extérieur et pourris à l'intérieur? C'est ce que Jésus a dit aux pharisiens. Aucun homme, aucune femme ne peut s'élever au-dessus de ses propres paroles. Ces paroles reflètent nos paroles. Nos paroles reflètent ce que nous sommes. À partir d'aujourd'hui, est-ce que nous voulons décider, ensemble, de changer notre façon de parler? De changer notre façon de nous exprimer. Décider de parler le langage de Dieu, qui consiste à proclamer sa parole, à refuser de nous identifier au langage de ce monde qui déshumanise, culpabilise, complexe, humilie, blesse, pour finalement tuer. C'est l'apôtre Paul, il dit, si vous vous mordez les uns les autres, vous vous détruirez les uns les autres. La langue tue. Elle ruine la réputation, les amitiés. Un langage grossier, un langage déplacé, n'incite pas seulement celui qui l'entend. Mais vous avez vu dans notre verset 30, il attriste le Saint-Esprit. Il blesse, il nie la réalité de la présence de Dieu dans notre vie. Son œuvre de sanctification, gage de notre salut. C'est pas facile à entendre. Je peux vous assurer que c'est pas facile à dire non plus. Éphésiens chapitre 4, verset 31, après le fait que Paul dit que nous attristons le Saint-Esprit, alors il dit maintenant il y a un travail à faire. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, vous savez ce qui se dit dans le dos et qu'on ne veut pas répéter, que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Et là, il donne la recette, la bonne recette. Soyez bons les uns envers les autres. Plein d'une tendre bienveillance, plein de tendresse, a dit Louis II. Faites-vous grâce, comme Dieu vous a fait grâce dans le Christ. Le peuple, dans le désert, a murmuré contre Dieu. Le peuple, dans le désert, a murmuré contre les serviteurs, Aaron et Moïse. Si vous relisez les textes, le peuple est mort dans le désert. Le peuple n'a pas atteint la terre promise. Je ne voudrais pas que nous n'atteignions pas la route. Je ne voudrais pas que quand nous arriverons au ciel, Dieu puisse nous reprocher de ne pas avoir agi comme nous aurions dû agir. D'avoir laissé nos bouches ruiner son témoignage. D'avoir permis à notre langue de communiquer autre chose que l'amour que Dieu nous a donné. Remplissons notre cœur, notre bouche, de sa parole. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne de louange, soit l'objet de nos pensées. Ensuite, nous verrons alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Une fontaine ne peut pas déverser son eau s'il n'y a rien dedans. Et notre bouche, elle n'est pas source de vie, mais elle n'est que le communicant, que le canal par lequel je peux exprimer. Mes mains sont des canaux aussi, mes pieds, mes yeux. Si je regarde de travers, si je regarde mal, si mes mains agressent, pour qu'une fontaine fonctionne, il faut que l'eau soit là. Avons-nous cette eau? Cette eau pure. Cette eau qui nous réconcilie. Cette eau qui nous garde en paix. Jésus a dit, je vous donne ma paix, pas comme le monde donne la paix. Mais ma paix à moi. Dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 21 et au verset 6, voilà ce qui est dit. Désormais, tout est accompli. Je suis le premier, je suis le dernier, l'origine et le but, l'alpha et l'oméga dans vos versions. Et voici mon cadeau pour celui qui a soif. Je lui donnerai à boire de l'eau de la source de vie, gratuitement. Mes amis, pour que nos bouches soient les dévidoirs des paroles de vie, il faut déjà que nous ayons été chercher cette eau. Parce que sans cette eau, voilà le paysage que nous offrons. Un paysage dévasté, un paysage d'anéantissement. Hiroshima. Nous avons des armes nucléaires souvent à notre portée. Des armes de destruction massive. Jésus nous offre la vie à la place. L'eau de vie, et il dit, vous n'aurez plus jamais soif. Parce qu'elle vous assure la sécurité. Elle est là chaque fois que vous en avez besoin. Il nous a donné le Saint-Esprit pour que nous soyons scellés, fixés, attachés, assurés. Le diable, lui, se déchaîne pour nous faire du mal les uns entre les autres. Pour nous détruire les uns les autres, pour rompre des relations, pour mettre de l'amertume, c'est pas l'œuvre de Dieu. Alors on a deux sœurs ce matin qui ont dit qu'on a reçu des cadeaux. Mais voilà, ce chapitre 21 nous offre un cadeau. L'eau des sources de la vie. J'aimerais qu'on baisse nos têtes, mais je ne veux pas qu'on le fasse comme d'habitude. J'aimerais qu'on se pose la question ce matin, est-ce que ma bouche, est-ce que ma personne ne communique pas cette parole? Est-ce que ma bouche, mes mots, mes actes ne reflètent pas celui que je confesse? Si c'est le cas, si c'est le cas. Si vous le reconnaissez ce matin, si vous dites, c'est vrai que j'ai tellement de mal. C'est vrai que je suis prompt à m'emporter, je suis prompt à utiliser des mots qui sont pas bien. Je suis prêt à réagir tellement vite. Alors ce matin, le cadeau qu'il nous a offert, c'est d'aller chercher l'eau de la vie auprès de Dieu. Mais ça, je ne peux pas le faire à votre place. J'ai besoin de cette eau tous les jours pour ne pas désapprouver celui qui m'utilise. Mais j'aimerais tellement que ça soit le cas de tous et de chacun. Alors on va baisser la tête. Et là, dans le secret de notre cœur, on va faire face à face avec Dieu, examen. À Dieu, lui, on lui cache rien. Il n'y a rien de caché qui ne soit révélé devant Dieu. Il nous connaît de haut en bas. Il sait exactement ce à quoi on pense tout de suite. Chaque mot avant d'arriver dans ma bouche, il les connaît. Et là, on fait la paix avec lui, on lui dit, Seigneur, c'est vrai que ma bouche n'est pas toujours à ta gloire, à ton honneur. Je suis ton fils, je suis ta fille. Mais Seigneur, j'ai besoin de grandir. J'ai besoin d'apprendre, j'ai besoin d'admettre. Aide-moi. Je veux m'engager aujourd'hui à ce que ma bouche ne soit pas ou plus un déversoir de choses que le diable va utiliser. Mais au contraire, l'expression de la source de la vie que tu as mis dans mon cœur. Que la critique, l'amertume, la diffamation puissent cesser. Que ces méchancetés que nous disons les uns aux autres, ces rancœurs, ces choses que le diable nous met dans notre cœur puissent disparaître puisque Jésus a mis le Saint-Esprit dans nos vies pour nous sceller. Alors là où vous êtes ce matin, vous dites ce message, il n'est pas là pour rien. Si Dieu l'a suscité, c'est que j'avais besoin de l'entendre. Et le premier qui avait besoin de l'entendre, c'est le prédicateur. Donc c'est pas cinq doigts accusateurs ni un doigt accusateur. C'est un rappel. Et si ce matin vous avez envie de faire la paix avec Dieu, de vous engager à nouveau, de vous engager à combattre contre cette bouche, vous avez besoin d'aller chercher cette eau paisible. Vous dites oui, j'ai besoin. J'ai besoin de paroles de paix, j'ai besoin de paroles de réconciliation avec toi. J'ai besoin de cette eau de la vie. Là où vous êtes, comme je le fais d'habitude, mais sérieusement là, vous dites, Seigneur, c'est un engagement que je prends. Un engagement sérieux. Seigneur, tu dis dans le livre du Deutéronome que tu mets devant moi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction, et ce matin je veux choisir la bénédiction. Je veux être agent de bénédiction, pas agent de mort. Et c'est une de mes luttes. J'ai tellement de mal. Vous levez la main, vous dites, oui Jean-Claude, je veux vraiment devenir cet agent. Je sais que ça sera difficile, je sais qu'il y aura des luttes. Mais là, ce matin, je veux prendre ce cadeau que Dieu me donne. Y a-t-il quelqu'un qui veut que je prie pour lui? Oui. Oui, oui. 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 C'est un engagement devant Dieu, frères et sœurs. C'est un engagement qui nous engage. Dieu s'est engagé, lui. Il nous attend. Il dit, si tu veux, c'est tout, voilà. Je te la donnerai gratuitement. Viens la chercher. Y a-t-il encore quelqu'un qui aimerait que je prie pour lui, pour elle, pour que nous soyons, oui, que Dieu vous bénisse. Oui. Oui, que Dieu vous bénisse. Oui, Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ces paroles qui nous rappellent que c'est toi qui as fait notre langue. Tu l'as placée dans notre corps. Je sais que la semaine prochaine, tu vas encore nous parler, Seigneur, nous montrer comment résister, comment travailler. Mais ce matin, déjà, je veux te bénir pour tous ceux, toutes celles qui ont levé la main, toutes ceux, toutes celles qui se disent « Oh, c'est tellement difficile », qui réalisent que exprimer tes bontés est plus difficile parfois que d'exprimer les méchancetés. Utiliser les bons mots nous fait plus réfléchir qu'utiliser les mauvais mots. Mais Seigneur, ce matin, tu leur fais la promesse d'être avec eux, de s'engager avec eux, de marcher avec eux. Tu leur as donné le Saint-Esprit pour qu'il soit scellé, assuré de leur avenir. Alors merci pour ces mains qui se sont levées. Merci pour ta communauté ici à Vigneux, Seigneur, que nous cessions de murmurer, nous cessions d'être agents de l'ennemi pour devenir agents de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur, pour ta parole et pour ta fidélité. Au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen.